Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur la polémique autour du discours de politique générale du nouveau Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, des milliers de familles palestiniennes fuient plusieurs secteurs du sud de la bande de Gaza. Un ordre d'évacuation a été émis par l'armée israélienne. Les acteurs humanitaires craignent une nouvelle opération militaire. Témoignage de Gazaoui. En début de journal. La campagne pour le second tour des législatives entre dans sa dernière ligne droite. En France, les désistements ont été nombreux pour faire barrage à l'extrême droite du côté de la gauche et de la majorité présidentielle. Et puis on parlera de la hausse alarmante des cas de rapt et de torture sur les enfants atteints d'albinisme. Ça se passe à Madagascar. Il appelle Israël à ne pas engager de nouvelles opérations militaires près de Khan Younes et de Rafah dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron s'entretenait hier par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou alors que des milliers de familles palestiniennes ont fui hier plusieurs secteurs du sud de la bande de Gaza après un ordre d'évacuation de l'armée qui fait craindre une nouvelle opération militaire d'envergure sur place. Selon l'ONU, 250 000 personnes seraient concernées par cet appel à l'évacuation. Sami Boukhelifa a recueilli depuis Jérusalem les témoignages de Gazaouis de nouveau poussés à fuir.
Ils fuient de nouveau par milliers, à pied ou entassés à l'arrière de camions, épuisés, éreintés par des mois de guerre. Une population démunie, condamnée à errer dans un territoire assiégé. Il faut démonter les tentes de fortune, emporter les matelas, les couvertures. C'est une malédiction, un exode sans fin, raconte Hadja Fatma.
Ce n'est pas une vie. Cette guerre nous prive de sommeil, d'eau, de nourriture. On doit tout le temps fuir. On est comme des nomades, sauf qu'on n'a nulle part où trouver refuge. Nous vivons une succession de déplacements forcés.
Dans le ciel, les chasseurs-bombardiers israéliens. Les cibles, Rafah et Khan Younes dans le sud. Le nord de la bande de Gaza n'est pas non plus épargné. Shujaïa, Jabalia, c'est là que vit Hafez.
Ici, la souffrance est notre lot quotidien. Je n'arrive pas à trouver de la nourriture pour mes enfants et ça me fait mal à l'âme. Il nous reste quelques conserves de pois chiches. Nous les donnons aux enfants comme si c'était des médicaments. Quelques grains à chaque repas. Le monde entier voit ce qui se passe ici. Et pourtant, on se sent bien seul.
Je ne sais pas quelles valeurs, quels principes régissent ce monde. Je ne sais pas au nom de quelle idéologie ou religion cette souffrance nous est infligée. Gaza est un cimetière peuplé d'orphelins et de mutilés, conclut le père de famille. Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Un reportage depuis Jérusalem que vous pouvez retrouver sur notre site RFI.fr. En France, il reste 3 jours avant la clôture de la campagne officielle pour le second tour des législatives. Depuis hier soir, plus possible de déposer des candidatures. Et il y aura bien un large barrage contre l'extrême droite. Les désistements ont été nombreux. La gauche a retiré plus de 130 candidats qui risquaient de favoriser la dispersion des voix et le Rassemblement national en cas de triangulaire. Le camp présidentiel en a retiré, lui, 82, démarche qui a drastiquement fait chuter justement le nombre de ces triangulaires, environ une centaine contre 311 possibles à la sortie des urnes dimanche dernier. L'objectif, c'est d'éviter que le Rassemblement national n'obtienne la majorité absolue. Et parole d'électeur ce matin sur RFI. RFI donne la parole à Cali, jeune salariée. Elle travaille au Bourget dans le 93, au nord de Paris, banlieue où le nouveau Front populaire est arrivé en tête malgré un taux d'abstention élevé. Elle est toujours sous le choc face au score obtenu par le RN.
Je suis assez secouée par ce qui se passe en ce moment. Je suis choquée. Je ne sais pas trop quoi dire, mais je ne sais pas vers où on va. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. En fait, on n'est pas encore arrivé au pire et je pense qu'on va vers ce chemin-là. J'ai aussi regardé du coup la carte de la France avec les votes et je pense que c'est vraiment ce qui m'a mis une claque parce que ça permet de visualiser. Je sais pas si je peux dire ça, mais quand je me dis qu'un Français sur deux a voté RN, et ben en fait quand je regarde autour de moi, je me dis qu'il y en a forcément un qui me regarde de travers. Moi, même si je risque rien parce que je suis française, mon mari il est pas de la même origine que moi, donc si on doit quitter la France, où est-ce qu'on va? C'est très compliqué, c'est ça ce qui m'inquiète surtout.
Le témoignage de Kali au micro de Sylvie Kofi. En Tunisie, il a longtemps laissé planer le doute sur la tenue effective du scrutin. L'élection présidentielle aura lieu sur place le 6 octobre prochain, date annoncée via un bref communiqué de la présidence. Le mandat de Kais Saied, arrivé au pouvoir en 2019, prend fin dans quelques mois. Le président tunisien s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021, s'est taillé une constitution sur mesure en 2022, ce qui pose la question des conditions dans lesquelles vont se tenir ce scrutin. En plus bref, au Kenya, une nouvelle journée de mobilisation hier, près d'une semaine après le retrait de la loi de finances qui fait suite à la répression meurtrière des manifestations à Nairobi. Hier, plusieurs centaines de manifestants se sont heurtés aux forces de l'ordre. La police communique ce matin le chiffre de plus de 270 personnes arrêtées officiellement pour actes criminels lors de ces manifestations. En Ukraine, le commandant de l'armée de l'air parle de propagande. La Russie, elle, affirme avoir détruit 5 avions de combat Su-27 sur une base aérienne. Des affirmations impossibles à vérifier en l'état, mais qui relancent les discussions sur la sécurisation des aérodromes censés accueillir prochainement des avions F-16 occidentaux. Précision Anastasia Becchio.
Où cacher les précieux avions de combat tant attendus? Comment les protéger? La question occupe les autorités ukrainiennes depuis des mois. La dernière frappe qui aurait touché l'aérodrome de Mirgorod, évoquée dès lundi notamment par des blogueurs ukrainiens, et la présence d'un drone russe à plus de 100 km du front illustrent les difficultés de l'Ukraine en matière de défense antiaérienne. Or, les premiers avions de combat promis seraient sur le point d'arriver en Ukraine. Ils sont primordiaux pour l'armée, qui cherche notamment à détruire les bombes planantes russes difficile à intercepter et qui cause de graves dégâts. Un porte-parole des forces armées ukrainiennes a concédé à Reuters que les attaques russes posaient certains problèmes, mais qu'elles n'empêcheraient pas la livraison ou l'utilisation de ces F-16. L'Ukraine a annoncé fin avril la construction de hangars souterrains pour les protéger. Mais ces infrastructures n'écartent pas complètement les risques. D'autres stratégies sont à l'étude. Certains de ces avions livrés pourraient-ils être déployés sur des bases situées en dehors de l'Ukraine, comme l'a confié un haut gradé? Vladimir Poutine a en tout cas prévenu que la Russie pourrait alors envisager de lancer des frappes contre ces bases qui deviendraient pour lui une cible légitime.
Anastasia Becchio. Aux États-Unis, l'état de santé de Joe Biden met le camp démocrate en ébullition à quelques mois de la présidentielle. L'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dit comprendre les interrogations sur l'état de santé de Joe Biden, apparu affaibli lors du débat télévisé face à Donald Trump, parfois confus. Il a reconnu hier une fatigue liée, selon lui, à ses nombreux déplacements internationaux. On en vient à présent à cette hausse alarmante de cas de rapt et de torture sur les enfants atteints d'albinisme. Ça se passe à Madagascar depuis novembre dernier, dans le sud-est de l'île. Une dizaine de mineurs à la peau dépigmentée ont été enlevés, certains violés, violentés ou tués. Situation qui inquiète évidemment les organisations qui œuvrent pour la protection de ces enfants. Sarah Tetou.
Leur différence physique nourrit des superstitions des plus dangereuses. On prêterait ainsi aux yeux des enfants atteints d'albinisme des pouvoirs magiques permettant de repérer même dans le noir des gisements de minerais précieux. C'est en tout cas ce qu'ont confié aux enquêteurs certains des ravisseurs arrêtés le mois passé dans le district de Mananzar après avoir exécuté l'enfant qu'ils avaient kidnappé et pour lequel ils n'avaient pas trouvé d'acquéreur. Sabine Laubert est la chef du bureau des droits humains sur l'île.
Au sud-est de Madagascar, nous croyons que ce sont des croyances néfastes et une augmentation de la crise humanitaire qui a aussi contribué à augmenter les attaques.
Dans l'urgence, les autorités essaient de placer en sécurité les enfants pris pour cible dans des centres ou des orphelinats qui acceptent de les accueillir. Une solution toutefois difficilement tenable sur la durée. Sur le continent, chez les pays voisins ayant subi des situations similaires, des stratégies nationales de lutte ont été menées. Les résultats sont positifs et pourraient bien être pris comme modèle.
Ce qui a bien fonctionné est baisser la violence en Afrique de l'Est sans un cadre complet pour assurer la sécurité d'une personne atteinte d'albinisme et leur famille et leur communauté, accès à l'éducation, accès à la santé et assurer l'emploi.
Des stratégies au long cours, mais nécessaires pour enrayer ce phénomène dramatique. Selon le Bureau des droits de l'homme, Madagascar serait désormais le pays dans lequel le taux d'agression contre les personnes atteintes d'albinisme est le plus élevé au monde. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et enfin, on termine ce journal par un mot de sport. On connaît les affiches des quarts de finale de l'Euro de football. Les deux dernières équipes qualifiées hier soir, la Turquie et les Pays-Bas. 10h10, tout de suite, c'est Juan Gomez.
8h10, temps universel, c'était le journal de Jeanne Bartoli. Restez avec nous.